Vous écoutez France Culture.
Fort intérieur avec Catherine Despeux, une émission d'Olivier Germain-Thomas. C'est un grand plaisir, madame, que de vous recevoir, compte tenu de vos compétences sur la culture chinoise, de vos pratiques, et parce que votre présence est rare dans les médias. Alors merci d'avance de votre confiance. Catherine Despeux, vous apprenez le chinois, vous complétez votre formation en ethnologie et en sciences humaines, vous allez vivre 4 ans à Taïwan, vous recevez l'enseignement d'un maître, vous approfondissez l'art martial Tai Chi Chuan et la médecine traditionnelle chinoise en éclairant particulièrement la relation corps-esprit. Vous accomplissez également des voyages et des séjours d'études en Chine populaire. Et sur le plan universitaire, après de nombreux postes, vous avez été professeur à l'INALCO. De vos nombreux ouvrages et de vos très nombreux articles, nous retiendrons sur la base du taoïsme et du bouddhisme, particulièrement la forme du bouddhisme chinois qui vous a particulièrement attiré, celle du bouddhisme Chan, qui a donné le zen au Japon. Nous retiendrons quelques directions, notamment tout ce que vous avez pu écrire sur l'art martial, ce que vous avez écrit et étudié sur la médecine, en vous appuyant sur votre traduction aux éditions des Deux Océans d'un traité d'alchimie et de physiologie taoïste et sur taoïsme et corps humain publié aux éditions Trédaniel. Et en ce qui concerne le bouddhisme, nous tâcherons de saisir les lignes de force de deux traités bouddhiques que vous avez présentés et traduits chez Fayard en 2005. Je crois que c'est déjà beaucoup. Nous allons voir ce que cela pourra donner, mais pour commencer, pouvez-vous nous dire, Catherine Despeux, ce qui vous a poussé vers le chinois? Y avait-il une tradition familiale ou est-ce quelque chose que vous-même, adolescente ou jeune femme, vous avez choisi de vous-même d'aller explorer?
Alors, bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. Je suis très touchée. Il n'y a pas vraiment un contexte familial qui m'ait poussée vers l'Asie. C'est plutôt, je crois, un désir d'évasion, de curiosité qui m'a poussée aussi à faire des études d'ethnologie. Si l'on voulait pousser un petit peu plus loin, je pourrais peut-être évoquer une voisine qui de temps en temps me gardait quand j'étais jeune et dont le mari avait été au Vietnam et donc qui avait déjà des objets asiatiques chez elle. Ça a été un des points de départ, mais c'est à peu près tout ce que je peux trouver dans l'arrière-plan familial.
D'un point de vue culturel, chez vous, l'Asie n'était pas présente donc.
Absolument pas, ou du moins pas directement. Elle est venue par le fait que mon père, qui était d'une famille très catholique, avait décidé de nous laisser le libre choix des religions, des philosophies auxquelles on voulait adhérer. Et donc cela m'a poussée à aller voir un petit peu partout, dans les religions d'Afrique, dans les religions d'Asie, et très rapidement, c'est l'Inde, la Chine et le Tibet qui ont accroché mon intérêt.
L'apprentissage du chinois a été laborieux pour vous ?
Pas du tout. Alors là, ça a été
Elle est considérée quand même, la langue chinoise, comme une des plus difficiles de toutes.
Je crois que c'est une erreur. La langue chinoise, du premier abord, est très facile. Elle est certainement beaucoup plus facile que le russe ou d'autres langues.
D'un point de vue grammatical, pas en ce qui concerne la mémorisation des idéogrammes.
Si, parce que la mémorisation, les idéogrammes sont des combinaisons d'éléments qui sont limités. Vous avez une centaine de clés, plus d'autres éléments qui vous donnent des indications diverses, soit sur la prononciation, soit aussi sur le sens du caractère. Et quand vous apprenez à bien analyser réaliser ces combinaisons, ça s'apprend très facilement.
Et la prononciation, les trois tons, voire les quatre tons dans certains cas?
Ça n'a jamais été une difficulté pour moi et mon expérience de l'enseignement me tendrait à continuer à être convaincue que ce n'est pas là la difficulté du chinois. La difficulté essentielle du chinois se situe plus dans le passé par rapport au chinois ancien, au chinois classique, où, disons comme le grec, pour faire une analogie très rapide, un même terme a une polysémie importante, c'est-à-dire peut avoir des sens différents, et qu'il faut faire un choix à chaque fois, selon le contexte et selon la connaissance que l'on peut avoir du contexte, qui parfois manque. Donc c'est tout ça qui est peut-être difficile dans le chinois, et plus encore, je dirais que ce n'est pas la langue qui est difficile, mais c'est la pensée, c'est-à-dire la façon dont à travers la langue, on véhicule une pensée qui est tributaire d'une culture qui a des prémices très différentes des nôtres.
Oui, ce qui veut dire que pour pénétrer véritablement l'intelligence des textes, il faut essayer, je ne dis pas de penser en chinois, c'est peut-être impossible, mais de se remettre le plus possible dans le contexte de la pensée chinoise. C'est donc une sorte de révolution à la fois intellectuelle et spirituelle que chacun doit faire.
Je crois que c'est une révolution personnelle. Personne ne sort indemne d'un apprentissage d'une langue quelle qu'elle soit, mais peut-être plus encore pour le chinois, dans la mesure où cela nous pousse vraiment à souvent explorer des différences que l'on n'aurait pas tendance à explorer spontanément.
Donc il y a des choix à faire.
Oui, bien sûr.
Oui, vous ne pouvez pas tout aborder de la tradition chinoise.
Non, certainement
pas. Par exemple,
pas.
Peut-être que je me trompe, mais j'ai peu lu de textes de vous consacrés au confucianisme. Donc, il y en a peut-être, mais disons que vous êtes bien concentré sur la relation corps-esprit, sur les questions de médecine. D'où viennent ces choix? Est-ce que ce sont des opportunités qui sont données parce que certains domaines n'avaient pas été explorés, ou est-ce que ça correspond vraiment chez vous et une décision d'explorer plutôt les arts martiaux, la médecine, la relation corps-esprit?
Ce n'est pas une décision consciente. Le confucianisme est très peu présent dans mes écrits parce que, disons, la carrière universitaire fait que on est amené à avoir une spécialisation de plus en plus pointue, de plus en plus poussée de nos jours. Il est, de mon point de vue, absolument impossible d'entrer dans la culture chinoise sans connaître le confucianisme. Et je dois à une amie qui m'a fait une réflexion il y a très longtemps, après mon retour de Taïwan, elle m'a dit « Est-ce que tu as lu les textes confucéens ?» Je lui ai dit « Non ». Elle m'a dit « Il faut les lire ». Et grâce à elle, j'ai compris que sans cette lecture et sans cette connaissance, je ne pouvais pas ni travailler sur la Chine, ni travailler sur le taoïsme et le bouddhisme. Puisque dans la culture chinoise même, l'histoire a été construite autour de ces trois enseignements, de ces trois courants de pensée, avec sans arrêt des interférences entre les deux, des interactions, des emprunts les uns aux autres. Donc le choix de travailler sur le taoïsme et sur le bouddhisme s'est fait progressivement, à partir du moment où j'ai choisi un sujet de thèse, qui était le Tai Chi Chuan. Un Tai Chi Chuan qui est un art martial, mais aussi un art de longévité, un art de vivre. Et que ce Tai Chi Chuan prend sa source à la fois dans le taoïsme, dans le bouddhisme et aussi un peu dans le confucianisme. Et c'est à partir du Tai Chi Chuan que j'ai été amenée après à travailler plus sur les représentations du corps, les relations entre le corps et l'esprit dans le taoïsme, et plus particulièrement dans un courant du taoïsme, une méthode qu'on appelle l'alchimie intérieure. Et cette méthode de l'alchimie intérieure a été elle-même très influencée par le bouddhisme et le bouddhisme Chan.
Oui, en ce qui concerne votre démarche, je vois bien effectivement que les étapes s'engendrent les unes les autres.
Absolument.
Voilà, c'est la première étape qui va vous permettre d'aller un peu plus à fond du côté de l'alchimie taoïste.
Oui.
Et pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas bien la culture chinoise, il est très important effectivement de rappeler ce que vous venez de faire, c'est-à-dire l'interférence constante entre le mode d'approche des bouddhistes, des taoïstes ou des confucéens, tout en rappelant quand même que le pouvoir, lui, était très marqué par le confucianisme et que, me semble-t-il, vous allez peut-être me contredire, me semble-t-il, l'emprise du confucianisme, en tout cas au moins sur les lettrés, a été plus forte que l'emprise du taoïsme.
Tout dépend à quelle époque on se situe. Et si vous allez dans les époques les plus reculées, c'est-à-dire entre, disons, les premiers siècles de notre ère et le Xe siècle, le bouddhisme et le taoïsme ont été, à tour de rôle, les courants de pensée dominants qui ont influencé les empereurs. On a l'exemple d'une impératrice des Tang au 7e siècle, l'impératrice Wu Zetian, qui était bouddhiste et qui a déclaré le bouddhisme religion d'État.
Et ensuite, il y a eu éradication de tous les temples. Et
oui, absolument.
Mais et mort qui a été donnée aux moines.
Oui, donc, ça c'est la première, enfin c'est la troisième proscription du bouddhisme qui a duré de 842 à 845.
Oui, on est quand même dans les périodes anciennes. Là.
Oui, mais très rapidement, le bouddhisme s'est reconstruit. Et ça c'est aussi une erreur que l'on véhicule, de croire que cette proscription a, disons, mis à terre le bouddhisme. Non, pas du tout. Le bouddhisme du 10e au 17e siècle a été extrêmement florissant.
Oui, puis il est revenu effectivement au moment des Mongols, c'est naturellement.
Exactement. Non seulement des Mongols, mais la dernière dynastie des Qing
oui,
avec
aussi.
Les Mandchous, qui eux aussi avaient déclaré comme religion d'État le bouddhisme tantrique, en fait.
Cela dit, me semble-t-il, mais je parle de mon spécialiste, les lettrés étaient quand même formés dans le moule du confucianisme.
Oui, tout à fait.
Alors, nous allons revenir donc à votre démarche, votre avancée vers la culture chinoise, la langue, des textes, et puis ensuite la rencontre avec le pays chinois. Mais c'était une époque où il était difficile d'aller travailler dans la Chine populaire, donc vous allez à Taïwan.
Oui, c'était tout à fait impossible. La Chine était à cette époque fermée aux étudiants. C'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers Taïwan pour y rester un an afin d'améliorer la langue. Et j'y suis restée 4 ans d'affilée. Ça a été une découverte extraordinaire d'une culture où j'ai été accueillie d'une façon merveilleuse. Enfin, il y avait tout à découvrir, toute la culture chinoise qui était à portée de la main. On se promenait dans les rues de Taipei et à un coin de rue, vous aviez un théâtre dans la rue. Vous étiez dans l'autobus, les gens parlaient avec vous, prenaient une journée pour vous montrer leur village ou les choses qui leur tenaient à cœur. C'était extraordinaire. Donc je découvrais, non pas par les textes, mais par ce que je vivais au quotidien, cette Chine, enfin cette petite Chine à travers Taïwan, qui avait de plus l'avantage pour moi d'être un microcosme, dans la mesure où il y avait d'abord les Taïwanais qui sont des personnes venues des provinces du sud de Chine, les aborigènes d'abord, les Taïwanais, et ensuite
les réfugiés
venus avec Chiang Kai-shek qui venaient de toutes les provinces de Chine. Donc ça me permettait aussi d'avoir un échantillon de divers dialectes, diverses langues et diverses formes de culture, puisqu'il ne faut pas oublier la diversité culturelle de la Chine. Et là-dessus est venu se greffer des rencontres qui, pour moi, ont été des rencontres importantes, notamment deux personnes. La première, c'est une femme médecin, acupunctrice et qui soignait par les plantes, qui m'a prise dans son cabinet et auprès de qui, pendant 3 ans, j'ai pu apprendre de manière expérimentale des bribes de médecine traditionnelle. Alors la seconde, c'est un lettré chinois traditionnel qui a une formation à la fois de bouddhiste Chan, mais aussi qui a eu des maîtres tibétains, qui a eu des maîtres taoïstes, et qui a une connaissance de la culture chinoise traditionnelle incroyable, comme les anciens lettrés, que j'ai rencontrés donc la deuxième année de mon séjour, et auprès de qui j'ai suivi des enseignements un petit peu sur beaucoup d'aspects de la culture chinoise, la musique, le livre des mutations, et une introduction à la méditation, essentiellement à la méditation Chan, mais aussi à d'autres techniques, d'autres méthodes qu'il enseigne, puisqu'en bon chinois, le syncrétisme fait partie, enfin au moins disons, la synthèse de différentes méthodes fait partie de son enseignement.
Ce qui est bien l'exemple de la manière de transmettre le savoir dans les cultures orientales, que ce soit la chinoise, la japonaise ou l'indienne par exemple, les textes comptent, l'apprentissage de type universitaire a son importance, mais la présence d'un maître, l'exemple de quelqu'un qui est en avance sur vous, reste fondamental.
Oui, oui, oui. C'est une personne, puisqu'elle est toujours en vie et que je continue à avoir des contacts avec elle, qui était constamment disponible, à la limite jour et nuit. C'est-à-dire que si au cours de ce cheminement intérieur, des questions se posaient, ou parfois des choses violentes qui remontaient, enfin tout ce qui pouvait se poser comme question, il pouvait y répondre immédiatement. Que ce soit donc des expériences difficiles ou au contraire des expériences très agréables que je risquais de prendre pour une expérience vraie, une expérience de ce qu'était l'esprit. Et il était là à chaque fois pour me remettre sur chemin et me dire non, ça n'est pas ça.
Et lui pensait, et j'imagine qu'il ne vous aurait pas initié s'il ne le pensait pas, qu'une occidentale pouvait accéder à un mode de pensée chinois.
Je n'ai jamais eu l'impression d'être une occidentale face à lui. Cette barrière n'existait absolument pas.
Il vous parlait, il vous initiait, il vous montrait les exemples comme il l'aurait fait avec une chinoise ou avec un chinois.
Absolument.
Ça, vous en êtes sûr?
Ah oui, oui, puisque l'enseignement était très souvent collectif avec d'autres élèves qui étaient là et j'ai vécu avec ces élèves aussi dans le même appartement, partageant leur vie pendant des semaines. Donc oui, certainement.
Donc Catherine Despeux, à Taïwan, vous êtes initiée au Tai Chi Chuan et vous allez, lorsque vous allez rentrer en France, vous allez approfondir cette voie.
C'est cela. Quand j'étais à Taïwan, Monsieur Kaltenmark, qui était un sinologue, grand spécialiste du taoïsme, est venu à un colloque et m'a dit « Mais c'est un peu dommage de rester ici à Taïwan sans faire de thèse. Tu devrais faire une thèse qui n'était pas dans mes projets à l'origine. » Et je lui dis « Bon, quel sujet prendre ?» Je lui ai proposé le Tai Chi Chuan et à ma grande surprise, il a accepté.
Et pourquoi vous lui avez proposé cela ?
Alors, je lui ai proposé cela parce que, avant de partir à Taïwan, je m'étais intéressée au yoga en Inde et j'avais cherché un petit peu l'équivalent en Chine, dans la culture chinoise. Donc, c'est plus le côté travail du corps, travail sur la respiration, sur la relaxation qui m'intéressait que l'aspect martial.
Mais vous insistez pourtant dans vos écrits pour rappeler qu'il s'agit quand même d'un art martial. Hein.
Oui.
Ce n'est pas simplement une pratique spirituelle.
Non.
C'est l'un et l'autre, mais c'est un art martial.
C'est avant tout un art martial.
Oui.
Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'à l'époque où je suis rentrée en France, où le Tai Chi Chuan était très peu connu, on lui donnait l'image, on l'appelait d'ailleurs la boxe de l'ombre ou la danse avec l'ombre. Et ce côté martial était pratiquement pas connu. Donc c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai insisté là-dessus. Et de toute façon, c'est aussi l'expérience que j'ai tirée du côtoiement que j'ai eu à Taïwan avec les maîtres de Tai Chi Chuan, qui tous le prenaient aussi comme un art de combat.
Et puis vous rappelez que c'est pour des raisons historiques précises, c'est que la Chine à plusieurs reprises dans son histoire a été obligée de se défendre contre des envahisseurs. Donc là, il y a un aspect très pratique.
Oui, 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 très pratique. Le Tai Chi Chuan est né dans ce milieu des milices paysannes qui soit protégeaient le village contre le banditisme, soit réglaient les problèmes à l'intérieur du village. Et surtout, c'était ces mêmes milices qui faisaient aussi les rituels martiaux dans le taoïsme. Ce sont ces mêmes milices que l'on peut voir à l'heure actuelle dans le 13e faire la danse du dragon ou la danse du lion, par exemple, au Nouvel An. Donc c'était ce même milieu d'arts martiaux où le Tai Chi Chuan était une des méthodes à côté de l'épée, du Tai Chi, du sabre et d'autres armes.
Là, on est en face d'un phénomène qui ne nous est pas complètement étranger, parce qu'après tout, dans la tradition des Templiers, il y a aussi le combat et le service de Dieu. Donc nous avons connu au Moyen-Âge aussi cette rencontre entre le combat terrestre et, disons, le combat spirituel. Mais je pense que pour un occidental contemporain, cette rencontre semble difficile, voire contradictoire. Elle ne l'est pas du tout dans la mentalité chinoise.
Ah non, pas du tout.
Combattre un adversaire, lui taper dessus, essayer de l'abattre, et en même temps, essayer de faire monter en soi une énergie, le qing, qui va permettre éventuellement un élargissement de la conscience, tout cela se fait dans un même mouvement.
Oui, et ce n'est pas contradictoire, puisque le combat idéal est celui où le combattant et l'adversaire forment une unité. Donc il n'y a plus de combat possible. C'est ce qui est illustré dans tous les arts martiaux, beaucoup d'arts martiaux japonais aussi.
Un des points importants, c'est cette force intérieure. Vous dites même qu'elle est illimitée, qu'on appelle le qing. De quoi s'agit-il? Si la question peut être posée comme ça, sans pratique.
Alors, c'est une force intérieure qui naît d'un apprentissage quotidien qui demande beaucoup d'efforts au préalable et qui permet d'avoir une image du corps, de l'intérieur du corps, du dynamisme du corps, du mouvement des différentes parties du corps, qui soit une image unifiée. Les maîtres de Taiji Xuan parlent du souffle de l'un ou du souffle unifiant ou du souffle unique. Et c'est cette construction donc d'une image du corps et d'une connaissance du mouvement du corps qui est un mouvement unifié qui va permettre, comme dans les stratégies de Go, dans les stratégies militaires, qui va permettre de construire une configuration dans l'espace dans laquelle on aura la position adéquate et on aura le geste adéquat pour répondre de la manière la plus juste possible à une situation d'attaque.
Et en quoi y a-t-il ascension spirituelle ?
L'ascension spirituelle, elle vient du fait que cette conscience de ce mouvement, elle implique de bien connaître les relations entre le corps et l'esprit. Il ne s'agit plus d'avoir une conscience du corps musculaire, mais de ce que les Chinois appellent le qi, que moi je préfère traduire par souffle, mais que l'on traduit aussi par énergie,
souvent,
voilà,
oui.
Et qui est le lien, qui est un des liens entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que c'est quand même cette conscience, là encore je reviens à cette image du corps que l'on a et que l'on construit ou que l'on retrouve, qui va permettre aussi de mieux se connaître soi-même et de mieux comprendre comment on habite ce corps, ce que c'est que ce corps qui n'est plus du tout un corps de chair, mais qui est un corps qui peut prendre de multiples aspects, comme on peut le voir dans le taoïsme et en alchimie intérieure. Et mon maître de Taiji Xuan, quand il venait, il me disait tout de suite, il prenait des exemples concrets. Par exemple, je faisais la vaisselle et il me disait, c'est pas bien, ton geste n'est pas bien, parce que tu bouges ta main seule, alors que le mouvement doit venir du centre du dos de la taille et tout le corps doit bouger en même temps que cette main. Si la main est séparée du reste, tu n'auras pas d'efficacité et tu n'auras pas ce jin. C'est ça le jin.
Je vois bien cette recherche de l'unité de soi avec soi-même. Mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas d'ouverture vers un domaine transcendant.
Si, parce que cette connaissance de soi, cette connaissance du corps, implique un désapprentissage de cette image que l'on a à l'origine, d'une part. D'autre part, ça implique une plus grande lucidité en ce qui concerne la place du corps dans l'espace ou la place du corps par rapport à autrui. Et le cheminement pour acquérir ces qualités passe la plupart du temps dans les arts martiaux ou dans d'autres techniques comme la calligraphie ou la peinture par ce que les Chinois appellent le jinso, l'assise en silence, ou la méditation, c'est-à-dire par le calme de l'esprit. C'est en partant de ce calme de l'esprit, il donne très souvent une image très connue qui est celle de l'eau agitée qui, une fois qu'elle est au repos, devient pure et permet d'avoir une plus grande conscience de ce que l'on est et de ce qui vous entoure.
Quand vous dites conscience, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de communion avec l'ensemble du cosmos ?
Avant de parler de communion, je parlerai de communication. les exercices partent quand même d'éléments très concrets. Un des éléments fondamentaux, c'est aussi la respiration. Or, la respiration n'est pas uniquement une respiration par le nez ou par la bouche. Pour les Chinois, que ce soit dans le Taijiquan ou dans le Taoïsme, on respire, et dans le bouddhisme aussi, on respire autant par les pores de la peau. C'est-à-dire que ce corps de chair, ce corps matériel qui est limité dans une peau, va complètement éclater, si je puis dire, dans tous ces exercices énergétiques sur le souffle, sur le mouvement, exercice spirituel, pour que cette peau soit un lieu de passage, de communication entre le dedans et le dehors. Et des exercices de précis consistent même à visualiser le corps comme un petit paysage intérieur, comme un microcosme. On va retrouver le soleil, la lune, la végétation, tout dans ce corps, ce qui fait que cette différence spatiale que l'on a entre le petit et le grand, ou cette barrière entre le dedans et le dehors, disparaît. C'est une façon, donc, à partir du corps, de travailler sur soi, sur la conscience que l'on a de soi, et c'est aussi une intégration du macrocosme en soi. Donc il y a d'abord communication par le souffle, par les pores de la peau. Le souffle va sortir, ou le qi va sortir et rentrer par les pores de la peau. C'est un des principes de base du qigong, qui est très à la mode actuellement, où on peut s'imprégner du qi, des arbres, du qi, de l'espace, de tout. Et on prend l'exemple de la nature, mais dans ce macrocosme, il ne faut pas oublier l'homme et les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a aussi un échange entre les êtres humains qui est de plus ou moins grande qualité et un lien qui se crée. Un lien qui se crée et qui peut aller jusqu'à, effectivement, cette communion et cette union avec le tout, avec le cosmos ou avec autrui.
Catherine Despeux, on vous dit spécialiste du taoïsme, mais si on vous a bien écouté, on a bien compris que vous n'aimez pas les cloisons. D'abord parce que la Chine ne les aime pas, et ensuite parce que votre curiosité vous a poussé effectivement à explorer des domaines aussi bien ceux des arts martiaux liés, bien évidemment, au taoïsme que à des domaines liés au bouddhisme. Mais en ce qui concerne le taoïsme, nous pouvons nous appuyer sur deux de vos ouvrages ou de vos traductions, donc à la fois la traduction de Chao Bichen, du traité d'alchimie et de physiologie taoïste, et sur votre ouvrage « Taoïsme et corps humain ». Auparavant, pour ceux qui entendent parler du taoïsme et qui ne cessent de répéter, mais le taoïsme c'est très facile, le yin, le yang, voilà, l'esprit masculin, l'esprit féminin, on mêle les deux, on fabrique du taoïsme. Bon, ça vous devez entendre ces simplifications qui doivent vous énerver, je vous comprends. Est-ce que vous pourriez quand même, assez rapidement, sans trahir toute la subtilité, la complexité du taoïsme à travers les siècles, nous montrer ce qu'a été l'originalité de l'apport du taoïsme au sein de la culture chinoise?
Peut-être d'abord un très bref rappel historique. Le taoïsme part de Lao Tzu et du livre de la voie et de la vertu, qui, à partir des premiers siècles de notre ère, est devenu l'écrit fondamental de certains courants qui ont été à l'origine de la religion taoïste. Et cette religion taoïste s'est fondée à la fois sur des textes taoïstes comme celui de Lao Tzu et de Chuang Tzu, et sur les conceptions cosmologiques de base de la Chine, qui étaient communes à plusieurs courants, et aussi au confucianisme. Et dans ce taoïsme religieux, c'est constamment enrichi de nouveaux apports, notamment d'apports du bouddhisme. Certaines écoles ne seraient pas ce qu'elles sont sans des emprunts au bouddhisme. Alors comment caractériser le taoïsme? Pensée de base est donc celle de Lao Tzu, celle du livre de la voie et de la vertu, essentiellement. On peut peut-être dire que le corps tient une place particulière dans beaucoup d'écoles du taoïsme. Mais bien entendu, à côté de cela, il y a un taoïsme religieux qui est composé de rituels, de prières, d'une liturgie, de cultes à des divinités très nombreuses. Et ça, c'est une partie du taoïsme que moi, je ne connais pratiquement pas, dont je ne suis absolument pas spécialiste. Je me suis plutôt concentrée sur tout ce qui était, en gros, technique du corps et de l'esprit.
Et si vous parlez d'alchimie, c'est que cette technique, ces techniques doivent aboutir à une modification, à un changement, à une mutation de ce que nous étions avant la pratique.
Oui, l'alchimie, qui existe depuis l'Antiquité en Chine, était à l'origine, comme en Occident, une alchimie opératoire, où les adeptes essayaient de fabriquer de l'or, soit du vrai, soit du faux or, ou bien ont essayé de confectionner des pilules d'immortalité avec des produits très dangereux, hein, comme le cinabre, le mercure, le réalgar. Et c'est un courant qui a été très important pour le développement de la chimie, mais qui a aussi fait beaucoup de dégâts, et plusieurs empereurs sont morts de l'ingestion de ces fameuses pilules d'immortalité. Et progressivement, donc, on en est venu à ce qu'on appelle l'alchimie intérieure,
voilà,
qui utilisait au départ aussi ces produits externes, mais qui petit à petit ont transposé cette alchimie à l'intérieur du corps. Le corps est devenu le lieu des transmutations. Donc la personne, disons, avec son corps, est devenue le lieu de mutation, de transformation. Et les ingrédients de base qui allaient former cette pépite d'or, c'était des ingrédients de la personne, c'est-à-dire essentiellement trois. L'essence, qui est l'essence séminale et l'énergie issue de la nourriture. Le qi, le souffle que l'on retrouve ici. Et le shen, qu'on traduit par âme ou esprit.
Oui, donc c'est magnifique de penser qu'au départ, on partait d'une matière extérieure et ensuite, l'intelligence spirituelle de l'homme lui a permis de constater, souvent de manière pratique d'ailleurs, que les éléments étaient à l'intérieur de lui. Simplement, il était en sommeil et qu'il s'agissait de les éveiller.
Oui, mais ça, c'est une conscience qui existait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que l'alchimie intérieure n'a fait que traduire dans des termes symboliques et des termes d'alchimie des méthodes et des conceptions qui existaient déjà auparavant. Et cette alchimie intérieure a eu l'avantage de faire une synthèse de différentes techniques qui existaient auparavant dans différentes écoles, dans différents courants de pensée. Donc ce travail sur l'essence et sur l'énergie sexuelle, sur le souffle et sur l'âme ou sur les âmes du corps existait depuis très longtemps dans le taoïsme. C'est pas uniquement lié au développement de l'alchimie intérieure au Xe siècle de notre ère.
Non, c'est ça, mais je voulais quand même montrer qu'en ce qui concerne l'alchimie, on est passé de quelque chose qui était extérieur au corps humain à un travail sur le corps humain lui-même.
Oui.
À l'intérieur du corps humain lui-même.
Oui.
Ce qui est une forme de révolution aussi, de chercher le résultat uniquement avec des éléments matériels ou de les chercher avec le souffle qui est aussi matériel. Enfin, même si la séparation entre ce qui est d'ordre matériel et ce qui est d'ordre intérieur n'est pas du tout aussi nette dans la culture chinoise que chez nous.
Mais oui, non, elle n'est pas. Justement, c'est ça qui est difficile.
On est tout le temps dans le tissage.
On est tout le temps, il n'y a pas de rupture ou de limite très précise entre ce qui serait matériel ou pas. Et ça va plus loin que ça, parce que les alchimistes qui ont fait l'alchimie intérieure ont même considéré que le travail qu'ils faisaient sur soi transformait la matière et transformait les éléments extérieurs. Et ça, c'est ancien, ça ne date pas d'ailleurs de l'alchimie intérieure, parce que dans tous les rituels taoïstes, c'est ce qui se passe. Le maître du rituel ne peut être efficace que lorsqu'il émet son qi, donc lorsqu'il émet sa force qui vient d'un propre travail intérieur qu'il a fait et qui va avoir une action sur l'extérieur.
Visible.
Qui peut être visible, ça peut être de soigner autrui, d'enlever la maladie à quelqu'un. C'est une des méthodes thérapeutiques les plus utilisées dans le taoïsme.
Vous avez choisi de traduire un texte qui, lui, date du début du XXe siècle. Vous auriez pu aller dans des textes plus anciens, mais ce traité d'alchimie et de physiologie taoïste, écrit par Chao Bixen, est un livre relativement récent.
Oui.
Vous dites d'ailleurs, c'est au début ou à la fin, vous dites qu'il y a de nombreuses erreurs dans ce texte, mais peu importe, l'esprit est là et il vous a semblé suffisamment important pour le transmettre au public français ou francophone.
Je l'ai choisi en fait parce qu'à l'époque, il y avait peu de travaux en Occident sur l'alchimie intérieure et sur le sens de ces termes symboliques qui étaient donc assez difficiles d'accès. Et l'avantage de ce texte, c'est qu'il essayait d'établir des parallèles entre ces termes chinois d'alchimie et des éléments de la physiologie occidentale.
Oui, parce qu'il les connaissait.
Parce qu'il les connaissait. Voilà. Donc c'était
une approche plus facile, c'est ça.
Pour moi, personnellement, et aussi pour le...
Que les textes les plus traditionnels.
Que les textes les plus traditionnels, ou si on parle de corbeau d'or et de lapin lunaire, ce sera un langage dans lequel il est beaucoup plus difficile de pénétrer.
Donc vous avez montré effectivement quelles étaient les trois étapes dans chacun des trois champs, l'essence, le souffle, l'énergie spirituelle. Pour mettre en action chacun de ces éléments, il faut une longue préparation. Il faut être guidé par un maître. D'ailleurs, certains de ces rituels sont secrets. Et puis, pour un public occidental, il est évident qu'on est, pardonnez-moi si je commence par cela, mais on est particulièrement étonné, sauf si on sait ce qui s'est passé en Inde dans le tantrisme, par l'utilisation de l'énergie sexuelle dans une démarche qui peut être considérée comme une démarche spirituelle. Vous pouvez nous montrer comment cette énergie sexuelle peut se transformer en autre chose que ce que nous imaginions qu'elle était.
Alors, ces pratiques partent dans le taoïsme de deux éléments. D'une part, l'importance de la sexualité dans la culture chinoise, et notamment des conseils sur la sexualité qui étaient donnés aux empereurs pour engendrer des fils et avoir des descendants. Et deuxièmement, cela vient du premier chapitre de Lao Tzu, qui est d'ailleurs difficile à comprendre et à traduire, où il est question d'une appréhension du tas, de la voix, dans l'état de sans-désir, et dans l'état de désir. Donc il y a à la fois l'idée que le désir est quelque chose qui limite et qu'il faut travailler sur ce désir. Mais pour travailler sur ce désir, il ne s'agit pas de le supprimer. Il s'agit de le transformer ou de l'intégrer à autre chose. Et c'est ce qui se passe donc dans ces techniques. cette sexualité, en fait, cette énergie, le tin, quand on parle de tin en chinois, ce que j'ai traduit par essence, qui est le même terme qui désigne le sperme, mais aussi chez la femme, l'énergie sexuelle, donc c'est pour ça que c'est à la fois lié à l'élément physiologique tout en étant aussi autre chose. C'est la racine de vie, c'est l'énergie, la force de vie. Sans cette force de vie, le corps et l'individu s'étiolent. Donc il s'agit de la reconnaître pour ce qu'elle est et de la fondre dans l'unité. Donc ces pratiques ne visent pas du tout, au fond, à transformer quelque chose, mais simplement à vivre cette sexualité de manière à ce que le corps ne soit plus uniquement le lieu de cette sexualité, mais que ce soit l'individu en tant que tout qui peut être fondu à l'univers. Donc le premier point, c'est au fond de débloquer toutes les tensions qui sont à l'intérieur du corps ou à l'intérieur de l'individu pour arriver à ce que l'énergie circule librement.
Oui, enfin il y a le point qui peut nous sembler le plus étrange, qui est à un moment donné le retournement, puisque si l'énergie séminale sort du corps, cette énergie rentre dans le processus de vie et de mort, et donc pour atteindre, je sais que lorsqu'on parle d'immortalité, c'est plutôt longévité, hein, parce que immortalité, les Chinois étaient assez réalistes pour bien se rendre compte que personne n'atteignait l'immortalité, en tout cas sous la forme du corps physique que l'on pouvait voir. Mais pour atteindre cette longévité, il fallait inverser le cours normal. Et là, on est dans quelque chose qui n'est pas seulement le respect de l'énergie telle qu'elle existe naturellement, puisqu'il s'agit d'inverser.
Si, c'est toujours le respect de l'énergie telle qu'elle est actuellement. Ça n'est pas la façon dont physiologiquement on vit la sexualité. Mais c'est un point qui est très délicat et très ambigu. Parce que ces techniques du coitus reservatus, c'est-à-dire qui consiste à retenir l'essence séminale, est à la fois...
Et à la faire remonter.
C'est pour la plupart des maîtres taoïstes auxquels j'ai posé la question et que j'ai côtoyé, c'est une mauvaise interprétation de ces techniques et quelque chose qui peut être très dangereux. Il ne s'agit absolument pas d'essayer de retenir quoi que ce soit. C'est le contraire de cette démarche d'alchimie. Il s'agit tout simplement que, disons, la concentration et la détente générale du corps font que l'écoulement ne se fait pas ou qu'il se fait à volonté. Donc ce qui est recherché, c'est au fond une maîtrise, mais pas un contrôle, hein, c'est tout simplement laisser faire, c'est le wu-wei, c'est le non-agir de Lao Tzu, qui est un des éléments essentiels, et c'est ce qu'expliquent très bien les textes d'alchimie intérieure. Quand il parle de l'eau des reins, donc par rein, il faut comprendre les reins, et les organes sexuels, et du feu du cœur. Ils disent l'homme ordinaire a le feu du cœur, c'est-à-dire toutes les passions qui l'enflamment et qui le font monter et sortir de lui. Et ces passions font que l'eau des reins va s'écouler vers le bas. Dans la chimie, on inverse le processus. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait remonter l'eau des reins et descendre le feu du cœur. Qu'est-ce que ça signifie d'une manière concrète ? Ça signifie que quelqu'un qui est dans un état de très grand calme, de très grande détente, de très grand lâcher-prise, qui est un état qui peut être expérimenté par exemple dans la méditation, dans ce cas-là, tout naturellement, une chaleur et un éveil de l'organe sexuel se produit. C'est quelque chose de naturel. Et dans ce cas-là, si le feu, si le cœur ne s'emballe pas, ne va pas avec cette sensation, à ce moment-là, il y a union entre le feu du cœur et l'eau des reins et une transmutation peut-être de l'énergie sexuelle qui n'est plus uniquement liée à une partie du corps, mais qui envahit tout le corps et tout l'être.
Vous parlez également, enfin en tout cas le texte, et vous revenez sur le sujet dans votre conclusion, sur l'enfanson, comme s'il y avait de la part du pratiquant de cette alchimie taoïste, quelque chose qui serait symboliquement ou réellement la création d'un enfant, la mise au monde, mise au monde.
C'est tout à fait cela. Ils ont poussé cette idée de renverser le cours des choses jusqu'à dire que l'alchimiste allait créer en lui. Je vous ai parlé tout à l'heure de pépites d'or, mais en fait, eux, ils parlent d'un immortel d'or. Ils créent un nouveau-né, ils créent un enfant-son. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance, un nouvel être qui va être créé par cette pratique et par cette conscience du fait que l'énergie sexuelle, la respiration et toutes les expressions psychologiques ou spirituelles de l'individu font un.
Donc, puisque Catherine Despeux, nous n'avons pas voulu vous enfermer dans le taoïsme, encore que le taoïsme ne soit fermé sur rien, puisqu'au contraire, il s'agit de s'ouvrir, je voudrais voir rapidement avec vous donc, la traduction que vous avez donnée dans la collection Trésors du bouddhisme chez Fayard, du Sutra de l'éveil parfait, de traité de la naissance de la foi dans le grand véhicule, avec ce que vous dites dans votre présentation qui est intéressant, c'est-à-dire que nous n'avons pas la certitude, c'est un texte que vous avez traduit du chinois, mais nous n'avons pas la certitude qu'il s'agit vraiment d'une traduction d'un texte canonique sanskrit, car les Chinois ont créé en chinois un certain nombre de textes qui s'inspiraient de la tradition du grand véhicule qui lui-même avait été établi par des textes canoniques en sanskrit, mais quelquefois faisait semblant de l'avoir traduit du sanskrit alors que c'était un texte directement écrit en chinois.
Oui, et je dois dire que les plus beaux textes du point de vue des Chinois, la culture chinoise dans le bouddhisme, sont des textes dits apocryphes ou douteux, donc qui auraient été forgés de toutes pièces par des Chinois ou par des étrangers, mais qui ne viendraient pas d'un original indien sanskrit. Et aussi bien le Sutra de l'éveil parfait que le traité de la naissance de la foi sont parmi les 4 ou 5 textes fondamentaux, entre autres, du bouddhisme Chan.
C'est ça, qui a eu une très très grande influence.
Une très grande influence.
Tout au cours de l'histoire du bouddhisme en Chine.
D'une part, et aussi sur les lettrés. C'est-à-dire que les lettrés, qui avaient quand même une formation essentiellement confucéenne, avaient une culture générale. Et dans le bouddhisme, c'était ces textes-là qui, avec le Sutra du Diamant, étaient parmi les plus lus, les plus reconnus, les plus commentés.
Donc les questions qui se posent dans ce texte sont très riches et très variés. On retrouve certaines des questions dans tous ces textes canoniques du bouddhisme, du Mahayana en Inde. Par exemple, je prends juste un exemple, entre l'éveil subit ou l'éveil graduel.
Oui.
Est-ce que l'éveil va arriver rapidement ou est-ce qu'au contraire, il sera le fruit d'un très lent processus?
C'est au cœur, au fond, du premier, le Sutra de l'éveil parfait, qui part de l'idée que l'éveil est à la fois subi et graduel.
Donc la dichotomie est dépassée.
La dichotomie est dépassée. Et c'est aussi complémentaire. C'est-à-dire que l'expérience elle-même peut être l'aboutissement d'un cheminement graduel, ou au contraire, il y a à l'origine une expérience soudaine qui, après, doit être intégré dans la vie quotidienne et doit être réalisé progressivement dans un chemin graduel.
Autre question qui est posée, il s'agit de savoir si tous les êtres possèdent la nature du Bouddha et peuvent atteindre l'éveil. Soit dit entre parenthèses, c'est une question aussi qui a beaucoup préoccupé la théologie chrétienne, de savoir si la grâce était donnée à tout le monde ou si seuls certains pouvaient effectivement l'acquérir. On est dans un domaine universel. On ne va pas faire ici de la religion comparée, mais essayer de voir comment cette question s'est posée au sein du bouddhisme.
Oui, c'est surtout le bouddhisme du grand véhicule qui a mis l'accent sur cette question et qui a été l'objet de débats très importants. Il s'agissait de savoir si tout le monde pouvait arriver à cette expérience de l'éveil ou si c'était réservé à certains.
Le bouddhisme chinois n'a pas tranché.
Non, le bouddhisme chinois n'a pas tranché, mais est plutôt allé dans le sens d'un accès général, universel de l'éveil. C'est ce qui a fait la popularité, entre autres, du Sutra du Lotus, qui, lui, affirme absolument que l'éveil est pour tous.
Vous abordez aussi le problème, enfin le texte, et vous-même dans vos commentaires, de la relation qu'il peut y avoir entre quiétude et contemplation. Et même cette question subtile et complexe de savoir entre la quiétude et la contemplation, lequel précède l'autre.
C'est un des points intéressants de ce sutra, qui, en disant, hein, dès le premier chapitre, que tout est parfait dès l'origine, tout le monde est éveillé. C'est un des points de vue de plusieurs textes du Grand Véhicule, mais que néanmoins, l'ignorance nous empêche de le reconnaître. Donc il faut bien qu'il y ait un cheminement. Et ce cheminement, qui vient donc plutôt à la fin de ce sutra, est ici résumé en trois méthodes principales. La première qu'il appelle le shamatha, la quiétude. La deuxième qui est le vipassana, contemplation, non, samapati, pardon. Et la troisième qui est le dhyana.
C'est dhyana, samatha.
Donc il y a shamatha, samapati et dhyana. Voilà, ce sont les trois méthodes principales. Qui sont d'ailleurs des méthodes de recherche ou d'introspection qu'il est difficile de caractériser chacune. Qu'est-ce que c'est que le shamatha ? C'est la quiétude, c'est-à-dire le laisser faire, le laisser reposer, où le sutra donne un exemple très, très parlant, qui est celui du miroir. Les choses sont comme un miroir dans lesquels tous les objets, tous les éléments se reflètent. C'est la quiétude, vraiment. Pour la contemplation, le samapati, c'est plutôt la prise de conscience que toutes les choses sont à égalité. C'est-à-dire arriver à comprendre qu'il n'y a ni bien ni mal, mais que dans cet état d'éveil, quand on a cette vision de l'éveil, toutes les choses sont à égalité. Et ce samapati, c'est donc une expérience intérieure dans laquelle on n'est plus dans l'appropriation d'un choix entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, mais les choses sont là, telles qu'elles sont. Et dans cela, est donné à ce moment-là l'exemple d'une pousse, hein, comme une herbe qui pousse, quelque chose qui naît, qui est une concentration, une très grande force, qui naît de cette façon de laisser les choses telles qu'elles sont, à égalité. Et le troisième, qui est le dhyana, donc qui est un exercice bien connu puisque c'est l'exercice de base du Chan, de l'école du Chan, hein, c'est un recueillement, donc aussi un exercice de quiétude, de laisser faire, mais dans lequel naît à l'intérieur quelque chose comme une vibration qui va imprégner. Il y a un très beau texte du Petit Véhicule, d'ailleurs, qui dit que le dhyana, c'est comme une eau qui imprègne tous les pores et toutes les parties de la personne, qui en est imbibée. Et ce texte du Sutra de l'éveil parfait donne un autre exemple, qui est celui du battant de la cloche. Dans le dhyana, c'est comme le battant de la cloche qui fait résonner les choses et ces cercles de cet écho s'étend de plus en plus aux choses. Donc ça, ce sont les trois, techniques, trois méthodes de base qui peuvent alors après survenir l'une après l'autre. Ce ne sont pas forcément des techniques que l'on cherche à faire, à acquérir, mais ce sont des états que l'on vit au cours de cette expérience de la méditation et qu'il s'agit de reconnaître, de savoir s'il s'agit du samapati, du dhyana, du shamatha, pour essayer de comprendre où on en est, de voir ce qui se passe.
Il est très difficile d'en parler sans une pratique, parce qu'en fait, la réalité de ce qui se passe n'est pas donnée par la lecture d'un traité, elle est donnée par l'expérience.
Entre autres, bien entendu. C'est-à-dire, je peux avoir une compréhension intellectuelle de ce que c'est que le dhyana, le samapati.
Oui, j'aurais pas avancé avec ça.
Mais je n'avais pas eu du ressenti au cours de méditation, et si je n'avais pas posé à ce maître Nan Huaijin que j'ai rencontré à Taïwan, si je ne lui avais pas posé des questions en disant « Mais alors, là, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis dans le calme ? Est-ce que c'est un faux calme ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réprimé ? Est-ce que c'est vraiment une limpidité, etc. Donc,
c'est important. Il le sentait intuitivement ou bien c'était par les mots que vous lui donniez qu'il arrivait à dire que vous y étiez arrivé ou pas ?
Ça, je ne saurais pas vous le dire, mais j'ai observé qu'il y avait des éléments dans mon attitude, dans le son de ma voix, dans
un geste, regard,
qui lui permettait, peut-être des signes, qui lui permettaient, lui, de décoder, peut-être.
En fait, passer une partie de sa vie en contact avec ces grands textes et avec ces pratiques change le regard que vous avez sur le monde.
Non, je ne crois pas. J'ai un regard sur le monde qui change constamment, donc je ne pense pas...
Oui, mais c'est parce que vous êtes passé justement par ces pratiques et par ces textes.
Oui, mais si j'étais passée par autre chose, j'aurais peut-être eu un regard différent ou similaire Je n'en suis pas sûre. Tout cela reste du domaine du vécu, du domaine de l'illusion, comme disent les textes bouddhiques. C'est une illusion comme une autre.
Ainsi se termine ce fort intérieur avec Catherine Despeux qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord Tourangalila d'Olivier Messiaen et actuellement Oblivion d'Astor Piazzolla par Richard Galliano. Fort intérieur, une émission d'Olivier Germain Thomas préparée avec la collaboration de Catherine Donnet à la technique et cela tombe bien. Wo Min, chargé de réalisation, Didier Lagarde. Alors je renvoie à trois ouvrages de Catherine Despeux, mais naturellement sur notre site, sur la toile, vous pourrez trouver d'autres informations sur la richesse de ses écrits sous forme de livres ou sous forme d'articles. Donc nous avons parlé à la fin du Sutra de l'éveil parfait, traité de la naissance de la foi d'un grand véhicule, publié chez Fayard, traduction, introduction, note. Et vous venez de rajouter, Catherine Despeux, quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que, en fin de compte, toutes ces techniques de méditation, de concentration, peuvent très bien se faire dans la vie quotidienne et peuvent se faire éventuellement, pourquoi pas, à travers d'autres traditions. Donc n'enfermons pas cela dans quelque chose qui serait trop labellisé. Et peut-être qu'en marchant, en faisant la vaisselle, comme le signalait votre maître, on peut trouver ces états de réconciliation complète de soi avec soi ou de soi avec le monde. Je n'ai pas trahi votre pensée.
Merci de cet ajout.
Oui, mais ça me semblait important. Oui. Donc, un des livres dont nous avons parlé de Chao Bichen, les traductions du traité d'alchimie et de physiologie taoïste, et je me suis appuyé également sur un ouvrage publié aux éditions Trédaniel, Taoïsme et corps humain. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas de vous connecter sur notre site franceculture.com et puis ensuite Fort Intérieur pour avoir de plus amples informations sur le sujet que nous abordons et sur les émissions à venir. Au revoir.